11h04, bienvenue dans Trudeau Landry. Juste vous rappeler pour ceux qui viennent de se joindre à nous à travers le réseau Cogeco que la FIC est en train de débuter ce qu'on appelle une espèce de coup d'éclat sur les ponts, notamment le pont Jacques-Cartier à Montréal. Je vois des images aussi sur le pont de Québec, là, donc une marche du syndicat des infirmières sur les ponts pour tenter d'attirer l'attention un peu sur leurs revendications. Donc, on va suivre les détails qui sont reliés à ça. S'il y a des choses à signaler, 25-226 via le texto, si vous êtes témoin là, de ce qui se passe à cet endroit-là. Hey, Jonathan, on est à 15 jours de la présidentielle américaine.
C'est fou, hein?
Un peu plus de deux semaines, mais mardi, pas mardi de la semaine prochaine, mardi dans l'autre semaine, les Américains qui vont aller voter. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui votent à distance aussi depuis quelques semaines. Et il y a une histoire qui a beaucoup fait jaser dans les derniers jours. C'est cette histoire impliquant les textos entre Joe Biden, le candidat démocrate, et son fils, alors qu'il était en réhabilitation pour des problèmes de dépendance. Série de textos où Joe Biden... Bon, offre son appui à son fils. Son fils lui répond en disant qu'il était un peu incorrigible. Donc, en gros, ça ressemblait à ça un petit peu les textos. Puis là, on se demande, quelle est l'implication de l'ancien maire de New York et avocat personnel de Donald Trump là-dedans, Rudy Giuliani? Est-ce que c'est lui qui a fourni les textos? Ah, est-ce que le New York Post aussi avait raison de publier des textos, disons, qui touchent la vie personnelle du candidat à la présidence? Et d'ailleurs, en parlant de Giuliani, en fin de semaine, sa fille, dans le Vanity Fair, a demandé aux Américains de voter pour Joe Biden et Kamala Harris. C'est la fille de Rudy Giuliani, ouais. Un long article qui a été publié dans les derniers jours là-dessus, c'est assez particulier. On va jaser tout ça avec notre expert en politique américaine de la chaire Raoul Dandurand, Raphaël Jacob. Salut Raphaël!
Salut monsieur!
C'est quand même toute une histoire ça, les textos hein, publiés dans le New York Post.
Ben, c'est parce que il y a beaucoup d'aspects à cette histoire-là. Donc, il y a l'aspect Hunter Biden, dont je pense qu'il faut qu'on commence par se parler, puis il y a l'aspect Joe Biden. OK? Oui. Commençons donc par Hunter Biden. Commençons par la base. Ce type-là, qui est controversé pour des raisons très personnelles, c'est-à-dire que depuis très longtemps, il y a des graves problèmes de dépendance. Je rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est, disons, un boulet politique pour son père à cause de ça depuis longtemps. Et donc, il y a des gens de près ou de loin qui sont impliqués dans la campagne de Donald Trump qui ont cru bon d'essayer de le salir et de s'en prendre à Hunter Biden personnellement là-dessus. Et ça, je pense que vous soyez républicain, démocrate, de gauche, de droite, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vicieux et c'est complètement condamnable. Donc ça, c'est une chose. Et le fait justement qu'un quotidien, un important quotidien américain ait publié des échanges textes qui sont très troublants, je dirais, pour n'importe qui a un cœur. C'est pas beau de voir un fils se sentir aussi sans valeur par rapport à son père. Il y a quelque chose de la fois, encore une fois, très troublant et très, très touchant de voir Joe Biden dans ces textes-là, ou le lire plutôt, se montrer aussi aimant et réconfortant par rapport à son fils qui a autant de problèmes. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose dont il faut parler, c'est ce qui est beaucoup plus explosif politiquement pour Joe Biden dans cette affaire-là, et non pas son fils. Parce que la raison pour laquelle on parle depuis à peu près un an d'Hunter Biden, c'est pas tant ses problèmes de consommation, ses problèmes personnels, ce sont ses liens professionnels passés, notamment en Ukraine. Notamment le fait qu'il avait siégé au sein du conseil d'administration d'une compagnie énergétique, alors que Hunter Biden ne possédait aucune espèce soit d'expérience ou d'expertise dans le domaine énergétique et touchait 50 000 $ par mois. Je le répète, là, par mois, pour siéger au sein de ce conseil d'administration-là, alors que son père, Joe Biden, était le vice-président des États-Unis. Donc, ça sentait mauvais. Mais ce que Joe Biden a toujours dit, c'est que mon fils, c'est mon fils, il fait ses choses, c'est un adulte, il a le droit de brasser les choses qu'il veut de son côté, dans le pays du monde qu'il veut. Je n'étais même pas au courant de ce que mon fils faisait. Donc, pour ceux qui allèguent qu'il y a eu du trafic d'influence, quoi que ce soit, j'étais même pas au courant. Où c'est devenu explosif, ce que le New York Post a publié la semaine dernière, c'est que il y aurait eu un échange entre un des partenaires d'affaires ukrainiens d'Hunter Biden et Hunter Biden pour le remercier de l'avoir présenté à son père alors qu'il était vice-président. Et c'est là la nature de la controverse, parce que ça viendrait, présumant que c'est vrai, contrecarrer ou contredire fondamentalement la version des faits de Joe Biden depuis toujours, c'est-à-dire qu'il n'était pas au courant. Et là, on aurait des sérieuses apparences à la fois de trafic d'influence
ouais.
et de conflit d'intérêts. C'est là que c'est devenu controversé. Et ce qui a ajouté encore plus de controverses, c'est que le New York Post n'a pas l'air d'avoir des sources qui sont hyper solides pour ces allégations-là. Donc, si c'est vrai, c'est très problématique pour Biden, ne serait-ce que d'un point de vue éthique. Si ce ne l'est pas, ben là, c'est très problématique pour le New York Post d'avoir publié quelque chose d'aussi explosif que ça. C'est donc, ça. Comme je dis, c'est très, très, très controversé.
Mais Raphaël, juste pour être sûr de bien comprendre, est-ce qu'on allègue que c'est Hunter Biden qui a voulu servir des contacts de son lien avec son père pour se créer des relations d'affaires, etc., ou il y aurait une implication directe de Joe Biden dans les gestes qui ont été posés?
Les deux. C'est-à-dire que ce qu'on semble déjà, je pense, pour n'importe qui est capable de lire entre les lignes, avoir démontré, c'est qu'Hunter Biden a eu accès à ce genre de position-là, avec ce genre de niveau de rémunération-là, parce que son père était le vice-président des États-Unis. Ça semble être assez clair. Il n'y a pas vraiment qui que ce soit qui peut remettre ça en question. Ou là, il y a une nouvelle allégation qui est lancée indirectement par le New York Post, c'est que Joe Biden aurait eu les deux mains dans la pâte, ou tout au moins aurait été au courant de tout ça. Et où ça devient encore plus explosif, c'est que lorsqu'il était vice-président, et ça, c'est pas des allégations, là, je veux dire, on a vu les vidéos, moi le premier, de Joe Biden, je le répète, alors qu'il était en fonction, qui se vante d'avoir fait limoger un procureur qui enquêtait sur la firme qui allait enquêter, qui engageait son fils. Et donc, tant et aussi longtemps que Joe Biden maintenait qu'il y avait une espèce de mur qui le séparait de son fils, qui était même pas au courant de ses activités, ben, c'était facile pour lui de dire, ben, écoutez, oui, c'est vrai que je me suis vanté de l'avoir fait congédier, ce procureur ukrainien-là, mais ça n'avait rien à voir avec mon fils. C'était quelque chose que le gouvernement américain voulait faire, d'autres gouvernements de la planète voulaient faire parce que c'était un procureur qui était incompétent alors que l'Ukraine avait un sérieux problème de corruption. Donc, j'ai agi comme vice-président des États-Unis et non pas comme vice-président et père de Hunter Biden qui brasse des affaires avec une firme sous enquête. Mais là, encore une fois, où ça devient beaucoup moins évident pour Joe Biden, c'est que si c'est vrai qu'il a vraiment eu des rencontres avec les partenaires ukrainiens de son fils à ce moment-là, et qu'en même temps, non seulement il se vantait, mais il réussissait à faire congédier un procureur qui enquêtait sur la firme en question, vous comprenez comment ça sent potentiellement très, très, très mauvais. Mais encore une fois, où c'est pas évident, c'est que la qualité des sources du New York Post est très sévèrement remise en question.
Ben, c'est quoi la source? C'est quoi l'implication de Giuliani là-dedans? Parce que j'ai compris, c'est que, bon, les textos étaient peut-être dans un ordinateur.
C'est ça.
Il y a une réparation dans un atelier au Delaware. C'est-tu Giuliani qui a donné ça au New York Post? C'est spécial, tout ça aussi, là.
C'est là que ça devient, disons, questionnable à plusieurs égards. Parce que, effectivement, les messages en question auraient été retrouvés dans un ordinateur qui aurait été laissé dans une shop, là, un magasin de réparation d'ordinateurs. Le propriétaire du magasin n'aurait pas été en mesure d'identifier à 100% qui était l'individu qui avait laissé cet ordinateur-là et personne ne serait venu le rechercher.
Ouais.
Donc, il aurait soumis ça à la police. La police aurait été au FBI. Giuliani, l'ancien maire de New York et évidemment proche ami de Donald Trump, aurait mis ses mains là-dessus et éventuellement, ça serait ramassé. Tout ça se serait ramassé au New York Post, qui est également un quotidien, disons, plus sympathique que peut l'être, par exemple, le New York Times à l'endroit de Donald Trump. Donc, il y a ça, mais si vous me permettez d'ajouter aussi, parce qu'il y a une autre composante à ça qui, depuis l'apparition de l'article, est venue ajouter une couche beaucoup plus lourde et beaucoup plus importante, je dirais, c'est le rôle des médias sociaux là-dedans. Parce que Twitter a pris
une
décision...
C'est ça, je vais t'entendre là-dessus, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a eu une tentative de... Attends, juste avant d'aller plus loin, Raphaël, là, je
vais juste dire ce qui se passe à Québec.
Parce qu'au 25-226, ça réagit beaucoup. Là, il y a le pont de Québec qui est barré à la circulation en ce moment, le pont Jacques-Cartier. Si vous vous demandez c'est quoi, c'est la Fédération interprofessionnelle de la santé, les infirmières, infirmiers finalement,
c'est le cas des infirmières,
qui ont décidé
infirmières.
De marcher sur les ponts, de barrer l'accès. Donc, beaucoup, beaucoup de police qui est sur place. Si vous avez des informations, si vous voulez nous
À Montréal, c'est le pont Jean-Cartier. À Québec, c'est le pont de Québec. Si vous voulez nous écrire au 25-226, les gens de la région de Québec, là, nous dire un peu c'est quoi l'impact actuellement de ça, parce qu'il doit avoir un impact sur Henri IV, sur Duplessis, etc. 25-226.
Et au téléphone 418-670-9330, Benjamin, qui va prendre vos appels. On va y revenir dans quelques minutes, mais je veux qu'on termine notre intervention avec toi, Raphaël, sur ce point-là, parce que je m'en voudrais de pas le faire, parce que certains vont dire, c'est ça, vous êtes tellement anti-Trump que vous mentionnez pas qu'il y a eu une tentative de cover-up des Twitter ou YouTube ou Facebook de ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ce qui s'est passé, c'est que Twitter a pris une décision éditoriale dans les heures qui ont suivi la publication de l'article du New York Post et a empêché. C'est pas juste qu'ils n'ont pas relayé, c'est qu'ils ont activement empêché leurs utilisateurs de partager cet article-là. Et donc, techniquement, c'est pas de la censure, entre guillemets, parce que Twitter n'est pas un gouvernement, mais quand on connaît évidemment l'étendue puis le pouvoir qu'a Twitter, ça a été vu par plusieurs comme de la censure carrément. Et ce qui est plus troublant, je dirais, c'est la justification, la raison qui a été donnée après coup par Twitter pour avoir fait ça. Ce qu'ils ont dit, c'est que ils n'acceptaient pas de partager ou de laisser leurs utilisateurs partager des informations qui étaient basées sur un vol ou sur des informations volées, parce que ce qui était sur ce laptop-là, cet ordinateur-là, ben évidemment, c'est de l'information qui était un petit peu obtenue sans que le principal intéressé veuille qu'on la dissémine. Sauf que si tu pousses le raisonnement plus loin et t'appliques ce standard-là de façon universelle, ben ça voudrait dire, par exemple, que Twitter aurait dû empêcher qu'on partage les nouvelles sur les déclarations d'impôts de Donald Trump il y a un mois, ou sur les Pentagon Papers, ouais, sur la guerre du Vietnam il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, il y a 50 ans. Donc, c'est ça, c'est qu'il y a un problème de cohérence qui est assez élémentaire ici. Et ça a atteint un stade où le Sénat américain, à majorité républicaine, a envoyé un subpoena au PDG de Twitter, Jack Dorsey, pour qu'il vienne s'expliquer sous serment cette semaine au Sénat. Fait que c'est qu'on touche à la fois à Joe Biden, à la campagne présidentielle, mais de façon beaucoup plus large au rôle qu'ont les médias sociaux dans la vie publique américaine. Et ça va dépasser très largement cette campagne-là qui se finit dans 15 jours. C'est pour ça que c'est si gros et c'est si important comme enjeu, là.
Merci beaucoup de nous avoir parlé, Raphaël. On se reparle évidemment d'ici les deux prochaines semaines. Sûrement à quelques reprises, Raphaël.
Avec plaisir.
Salut, merci, Raphaël. 11h15, vous rappelez ce qui se passe actuellement simultanément à Québec et à Montréal. Donc à Montréal, sur le pont Jacques-Cartier, c'est une espèce de coup d'éclat du syndicat des infirmières, la FIC, qui marche actuellement autour du pont Jacques-Cartier à Québec. Ça se passe présentement sur le pont de Québec. Je voyais que tu étais au téléphone tantôt, Benjamin. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui t'ont appelé au 1-877-670-9330, ouais, concernant ce qui se passe actuellement. Là, on me dit sur le pont La Porte, ça circule. Là, un auditeur qui vient de m'écrire via Messenger, parce que c'est le pont de Québec, là, évidemment, qui est perturbé par ça. Ça a l'air que sur le pont La Porte, actuellement, ça va quand même
effectivement
pas si mal.
Ça va très bien sur le pont Pierre Laporte pour le moment. C'est vraiment sur le pont de Québec la problématique. Ouais. À l'approche du pont, ça va bien. Ouais. Mais bon, éviter le secteur parce que c'est complètement bloqué à la circulation. Il n'y a pas moyen de passer. Même l'auditeur tout à l'heure au téléphone me disait, les policiers nous ont fait revirer de bord sur le pont. Donc, on est capable de faire rediriger la circulation correctement.
C'est pas la pire heure, on s'entend, là. Ça pourrait être pire à l'heure de pointe, on s'entend.
Moi, ce que je voudrais savoir des auditeurs, le 25-226, est-ce que vous voyez du mouvement sur le pont? Parce que tantôt, on avait des images à la télé du pont de Québec où on voyait des représentants de la FIC qui marchaient sur le pont. À la limite, si de façon symbolique, vous traversez le pont puis vous cheminez vers l'Assemblée nationale, c'est pas agréable, mais l'impact va peut-être être un peu limité, mais je regarde les images de ce qui se passe aux abords du pont Jacques-Cartier. On est immobile. On barre carrément l'accès au pont. Ça, ce n'est pas acceptable.
Non, puis je comprends pas. Je comprends pas parce qu'à mon avis, la population est assez sympathique aux revendications des infirmières. Puis on comprend que des fois, les syndicats vont trop loin. Des fois, il y a quelques bébés gâtés dans l'appareil étatique. Mais il me semble que les infirmières, le courant de sympathie est là. Je pense que la population appuie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui pensent que les infirmières devraient être mieux rémunérées. Tout le monde comprend, Jonathan, que des 16 heures en ligne puis du temps supplémentaire obligatoire, ça a aucun maudit bon sens. Puis c'est sûr que tout ça, présentement, est exacerbé par la pandémie. Mais c'est vraiment un problème entre le syndicat et le gouvernement, ou entre les infirmières et le gouvernement qui dure depuis des années. C'est pas nouveau. Je comprends pas pourquoi inclure la population, prendre une partie de la population en otage là-dessus aujourd'hui, là. Ça change absolument rien dans la vie de François Legault quand vous faites ça. Ça change absolument rien dans la vie de Christian Dubé. Ça change absolument rien dans la vie de Sonia Lebel, qui est la présidente du Conseil du Trésor. Tout ce que vous faites, c'est écœurer le monde quand vous faites ça. Alors que vous avez pas besoin, je pense que votre message, il passe déjà très, très bien auprès de la population. Je comprends pas sérieusement qu'on y aille encore avec ces tactiques-là en 2020.
Et d'autant, d'un côté comme de l'autre, comment se fait-il que dans une situation aussi particulière que celle qu'on vit, que des hommes et des femmes de bonne volonté sont pas capables de s'asseoir puis de s'entendre, puis de dire voici c'est quoi nos marges de manœuvre, voici c'est quoi les revendications, comment on peut se rejoindre à mi-chemin, puis au plus sacrant, parce que la situation, elle est épouvantable. Il y a des infirmières, des infirmiers qui quittent le réseau. En même temps, le gouvernement a des marges de manœuvre qui sont limitées, on comprend, mais c'est donné la latitude de pas faire du mur à mur dans les renégociations des conventions collectives. Donc oui, les enseignants et les enseignantes, on veut leur en donner plus. Les préposés aux bénéficiaires, on veut leur en donner plus. Mais les infirmières, infirmiers, c'est pas juste une question salariale, c'est une question d'organisation du travail. Il y a des choses qui doivent changer. Tout le monde doit collaborer. Et là, c'est dommage parce que c'est les citoyens qui font les frais. De cette incapacité-là de s'entendre du gouvernement et de la FIC.
Mais ça fait des années que ça dure. Tous les gouvernements qui se sont succédés disent toujours, comme là, vois-tu, c'est nos... Comment ils appellent nos anges? Nos quoi? Comment ils appellent?
Les anges gardiens.
Les anges gardiens, puis... Ah, vous avez une vocation, puis bravo. Je sais pas s'il y a un jour, il y a un gouvernement qui va reconnaître pour vrai au Québec le travail des infirmières. On le fait avec les médecins spécialistes. Moi, j'ai toujours été en faveur que les médecins soient très bien rémunérés au Québec. Ils le méritent. Ils posent des actes, ils se mettent à risque, ils ont fait de longues études. C'est très, très normal que les médecins soient bien rémunérés, mais c'est pas normal que les infirmières puis que les préposés soient mal rémunérés au Québec. Je dis mal rémunérés, disons pas à la hauteur du niveau de responsabilité qu'ils et qu'elles ont et des études qu'il y a à faire puis des heures qu'il y a à mettre là-dessus. Je sais pas si un jour il y a un gouvernement qui va reconnaître ça pour vrai. Mais bloquer les ponts, c'est vraiment pas une bonne idée.
Ouais,
vraiment
pas une bonne idée. C'est que la question, elle est complexe, puis le débat, il se fait pas publiquement, je trouve. T'sais, on parle de temps supplémentaire obligatoire, mais par exemple, la variante poste à temps partiel, si on n'en parle pas, est-ce que la FIC peut nous dire si elle est favorable à ce qu'on crée beaucoup, beaucoup de postes à temps plein pour éviter que des infirmières aient des postes à temps partiel, mettons, du 4 jours par semaine ou 3 jours par semaine, mais qu'ensuite soit obligé de faire du temps supplémentaire obligatoire, qui est plus payant, on va se dire aussi, là, temps supplémentaire obligatoire. Tu sais, il y a des formules qui existent où c'est du 7 jours où ils travaillent, 7 jours, travaillent pas. Dans l'organisation du travail, au-delà de simplement le salaire, qu'est-ce qui pourrait être fait?
C'est vrai.
Qu'est-ce qui, par exemple, pourrait être efficace, mais que le syndicat ne veut pas s'embarquer là-dedans parce qu'il y a des avantages
qui
seraient retirés
aussi
à certaines personnes? Tu sais, il y a des éléments aussi qu'on oublie parfois ou qu'on escamote dans le débat.
Mais il reste qu'à la base, je comprends ce que tu dis, c'est pas une profession qui est super attrayante, là. C'est pour quelqu'un qui choisit une profession quand vient le temps d'étudier en technique ou d'aller à l'université, parce que tu sais que les conditions vont être très, très difficiles. Tu sais que le salaire sera pas nécessairement à la hauteur. Puis, tu sais, tant mieux s'il y en a qui réussissent à faire un peu de monter leur paye un peu avec le temps supplémentaire. Tu sais, j'ai quasiment le goût de te répondre ça parce qu'à la base, c'est un job qui est sous-payé au Québec. Ça, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire aussi. Là. OK, parfait. Il est 11h22. Vous écoutez Trudeau Landry. On vient.